Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur Ancrage, le podcast sur lequel on se pose la question « Qui suis-je ? Qui ai-je envie d'être ? Quelles sont mes valeurs ?» Sur Ancrage, l'idée, c'est de se rencontrer, non pas de changer et de devenir la meilleure version de soi-même, mais tout simplement de se rencontrer ici et maintenant, là où on est, dont le but est d'accepter d'être pleinement humain, c'est-à-dire vulnérable, faillible, moche, beau. Ancrage, c'est un espace où on s'autorise à être pleinement soi et à laisser respirer toutes nos parts d'humanité. Je suis Melvin Debat et aujourd'hui je reçois Naïs Racazan. Ensemble, on a parlé d'athlétisme et de petites dépressions dans le sport, mais aussi de yoga et de postures justes entre performance et bonheur. Dans cette conversation, Naïs essaie de se mettre un petit peu à nu. Elle parle assez franchement de ses parts d'ombre, les parts de soi qui sont socialement un peu moins acceptables et qu'on a tendance à vouloir cacher, comme le fait d'être jalouse parfois des autres, ou même d'être hypocrite par moments. Mais le courage que je lui trouve dans sa capacité à être aussi authentique, c'est justement celui de se montrer faillible, de se montrer complètement humaine dans cet épisode. Et quelque part autoriser aussi les autres à l'être un petit peu plus dans leur vie. Si l'épisode vous plaît et si le podcast vous plaît en général, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour aider à sa diffusion et soutenir mon travail. Allez, je vous souhaite une très belle écoute. Bah, pour commencer, Naïs, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Et après, on partira pour l'interview.
Oui. Alors, je m'appelle Naïs Racazan, j'ai 20 ans, 21 ans à la fin d'année, donc je suis encore assez jeune. Ouais. J'ai grandi en Haute-Savoie, dans les montagnes à Évian, avec une super famille, des chouettes frères et sœurs. J'ai toujours aimé beaucoup le monde artistique, la musique, la danse, même le dessin. Enfin, j'ai une fibre artistique en moi, je pense. Et puis, parallèlement à ça, j'ai commencé à courir quand j'avais 8 ans. J'ai baigné dedans parce que toute ma famille est très sportive, mais surtout mon père et ma sœur qui couraient déjà avant moi. Donc, je les ai un peu suivis sur ce chemin. J'ai eu beaucoup de résultats sportifs jusqu'à mes 18 ans. 18 ans, oui. Et donc c'était vraiment un monde qui m'appartenait, enfin dans lequel en tout cas je m'épanouissais, je pensais m'épanouir. Et j'ai eu beaucoup de titres de championne de France, des sélections en équipe de France. Ça m'a fait rencontrer plein de super personnes. Donc voilà, je fais de la course à pied. Et en parallèle de ça, j'aime beaucoup l'école aussi. J'ai toujours été très bonne élève. Voilà, j'ai une scolarité assez tracée. Sans trop de problèmes. Et depuis le bac, je fais des études de sciences politiques. Voilà, donc maintenant je suis à Sciences Po à Grenoble et je vais finir mon bachelor l'année prochaine avant de peut-être me lancer dans un master et poursuivre mes études. Et je fais surtout du yoga.
Voilà, ok, présentation hyper complète.
Ouais, je ne savais pas où passer.
Ouais, donc tu fais du yoga, tu es prof de yoga. Aussi.
Oui, je suis enseignante depuis l'année dernière, mais après, en étant enseignante, on n'arrête jamais d'apprendre. Ouais. Donc, je me considère encore élève et je pense que je suis surtout élève avant d'être prof.
Ok. Bah, déjà, on va voir un petit peu comment dans ton parcours, tu es passée de justement athlète à prof de yoga. Qu'est-ce qui a fait le pont entre ces différentes choses-là et comment ça s'est passé pour toi justement dans ta vie d'athlète? Et qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivée là en fait? Et donc ouais, j'avais envie de te poser la question. Du coup, tu disais que t'as commencé l'athlète parce que t'as suivi ton père, ta sœur, etc. Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? C'était quoi l'athlète pour toi? Ça représentait quoi?
Bah, je me suis jamais trop posé la question de pourquoi je courais en fait. C'est ça le truc. J'ai fait un peu par mimétisme, mais je pense pour m'intégrer au mieux dans la famille surtout. En me disant que bah, voilà, mon papa courait depuis toujours, ma sœur a suivi ses traces. Donc moi, j'ai essayé de faire pareil. Et puis, vu que ça marchait bien, bah, j'ai continué en fait, sans trop me poser la question de est-ce que j'aimais courir, qu'est-ce qui m'animait là-dedans. Après, je pense que vraiment, ce qui m'a beaucoup... ce qui m'a permis de continuer pendant quand même pas mal d'années, c'est les rencontres que je faisais dans le cadre sportif. Et puis, c'est cette envie vicieuse d'être toujours la meilleure. Je dis malheureusement parce que c'est bien de vouloir être la meilleure, sauf que ça fait aussi beaucoup de troubles par la suite. Mmh. Et c'est, je pense, pour ça que j'en suis venue à une pratique peut-être plus holistique physique, donc le yoga, qui n'est pas du tout dans la performance, au contraire. Donc ouais, pendant des années, j'ai aimé courir pour la performance, en fait, pour avoir des résultats, pour être la meilleure, pour que tout le monde me considère comme la meilleure. Et j'en oubliais en fait le principal point du sport, qui est de bouger son corps, de se faire du bien et de trouver de l'alignement et plus de compréhension dans son corps. Ça, franchement, je ne l'avais pas du tout développé avec la course à pied. Et c'est avec le yoga que je l'ai trouvé. J'ai déménagé à Montpellier en 2021 pour le sport de base, j'y suis allée. Et c'est là que j'ai rencontré vraiment le yoga, parce que j'ai pris un cours dans un studio pour la première fois, parce qu'avant je le faisais sur internet, un peu à l'arrache. Et j'ai rencontré une prof, Anaïs, si jamais un jour elle écoute ce podcast, qui m'a vraiment touchée. Mais c'était une rencontre vraiment... je sais même pas comment décrire, mais c'est... Rien que par le son de sa voix et son toucher pendant le cours de yoga, là je me suis dit mais c'est trop bien le yoga. Je sais pas, il y a eu quelque chose de magique quoi qui s'est passé. Et après elle, j'ai rencontré d'autres profs qui ont été superbes à Montpellier. J'ai vraiment eu cette chance là de faire des rencontres incroyables. Et c'est là que je me suis dit pourquoi pas devenir enseignante en fait. Parce que j'en faisais de plus en plus, je sentais que c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Et que mon côté sportif faisait que je sais que j'allais être disciplinée dans cette pratique sans que ça en devienne un poids, parce qu'il n'y a pas de performance. Donc c'est pour ça que je me suis formée. Ouais. Il y aurait plein d'autres choses à dire, vraiment, ouais. Mais...
Bah, on va y aller pas à pas, justement, par rapport à ça, parce que tu as parlé déjà donc, du fait que tu distingues peut-être toi, donc, ta pratique du yoga de tes performances en athlète. Tu as dit que... Pour toi, il y avait quelque chose d'assez vicieux dans ton rapport à l'athlétisme, justement, et tes performances. Est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu ça ? Qu'est-ce que tu dis ? En quoi, dans ton expérience, c'était vicieux de chercher à toujours être la meilleure ? Et quelque part, qu'est-ce que tu cherchais, en fait, derrière le titre de « Je suis la meilleure » ?
Donc déjà, le yoga, c'est pas un sport. Je dis ça parce que dans l'aspect sportif, bien sûr, on peut le faire pour son plaisir, mais il y aura toujours une notion de comparaison avec les autres dans les chronos, dans les résultats de compétition. Enfin, il y a vraiment cette notion de performance, en tout cas selon moi, et puis selon beaucoup aussi qui font du yoga. Et dans le yoga, par contre, c'est vraiment juste toi avec toi-même, sans te fixer de barrières, sans te fixer d'objectifs de réussir quelque chose. En fait, tu y vas progressivement et ton corps, il y va progressivement. Et c'est par là que tu passes, c'est pas par une idée de performance. Et par contre, dans le sport, comme j'ai dit, il y a vraiment cette idée de réussir. Enfin, même si c'est un sport amateur qu'on fait pour surpasser ses chronos, il y aura toujours cette idée de chronos, ou en tout cas de résultats objectifs. Sauf que soit avec soi-même, on a besoin quand même de subjectivité, de savoir que son parcours... il n'est pas comparable aux autres, parce que personne n'est pareil. Donc c'est ça que je trouve vicieux dans le sport. En tout cas, moi, le rapport que j'en avais avec, c'est cette idée de comparaison avec les autres, de tout le temps faire la comparaison de son chrono, de même sa forme physique, de ce à quoi on ressemble, de tout en fait. On fait tout le temps la comparaison avec les autres. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait, même quand j'étais... la entre guillemets meilleure de ma catégorie, quand j'avais mes titres de championne de France, j'arrêtais pas de me comparer tout le temps et de pas avoir confiance en moi de ce fait, parce que j'avais jamais confiance en mes capacités, puisque je me disais tout le temps cette personne va être meilleure que moi et alors même qu'elle l'était pas. Mais c'est quelque chose de très vicieux, parce que dans la vie de tous les jours, quand on n'a pas confiance en ses capacités, c'est très difficile d'avancer. Donc je pense que c'est ce rapport vicieux que j'avais, et aussi un rapport difficile avec mon corps. Même si personne me critiquait ouvertement, moi je ressentais ça, et je pense que c'est parce que j'étais pas bien dans mon corps, je ressentais en fait que le regard des autres me pesait, qu'ils me trouvaient trop grosse, qu'ils me trouvaient pas assez affûtée pour une athlète. Et c'est vrai que j'étais pas, on voyait pas mes veines sortir de partout. Et donc en fait j'avais du mal avec ça, et je me disais j'ai envie d'être affûtée, sauf que bon, ça a développé encore plus de troubles et c'était pas la bonne solution. Ouais. Donc je pense que ouais, c'est pour ça que j'avais un rapport très vicieux avec le sport.
Alors ici, là, ça me donne envie d'intervenir. En fait, dans le miroir que te renvoie cette personne, qu'est-ce que finalement ça dit de ce que toi, tu penses déjà de toi ? Et c'est vrai que quand tu as des coachs qui... ou même des entraîneurs qui viennent te voir pour te dire voilà, peut-être que t'es pas assez affûté, etc. Peut-être que le coach, il te le dit, enfin il a ses intentions. Peut-être qu'il te le dit juste pour t'aider à progresser. Se dire comment finalement ce que te renvoie l'autre fait écho à des blessures qui sont en toi, et que peut-être tu peux justement travailler pour te dire bah ok, peut-être que j'ai vraiment un truc à régler avec mon rapport à mon corps. Parce que finalement, lui, ce qu'il dit, bah, ça lui appartient. Et moi, j'en fais après... enfin, tu vois, je réponds par rapport à ce que je suis. Tu vois aussi.
Ouais, exactement. Bah, en fait, ça, c'est une des leçons que le yoga m'a appris. M'a apprise. C'est que ce que les autres vont te dire, c'est simplement par rapport à leur propre expérience. Et que soi-même, on construit son chemin, et qu'il y a que toi, en fait, enfin, on vit de façon solitaire, même si on est entouré, on est la seule personne à se tracer son propre chemin. Et donc, quand moi, on me disait ça, forcément, ça résonnait. Je me disais, bah oui, j'ai pas confiance en moi depuis toujours, donc ce qu'il me dit, bah, c'est normal, parce que je suis trop grosse, et donc je dois changer. Mais c'est parce que j'avais pas confiance en moi, parce que si j'avais eu confiance en moi, je lui aurais dit, mais tu dis n'importe quoi, et je serais partie, en fait. Et donc, ouais, c'est venu réveiller plein de choses en moi, plein de blessures, comme tu dis, du rapport aux autres, du rapport à moi-même, de jalousie beaucoup envers les autres, bah, parce que toute cette idée de comparaison dans laquelle je baignais depuis toujours. Et en fait, c'est des gros défauts. Et on a beau dire ce qu'on veut, c'est vraiment des défauts qu'il faut essayer de corriger. Et moi, le yoga, ça m'a permis vraiment de me corriger sur tous ces points-là. Ouais. Et franchement, je pense que je suis une bien meilleure personne qu'il y a 2 ans, parce que j'ai réussi à me détacher, en fait, de toutes ces blessures. Enfin, pas toutes encore, mais de beaucoup de blessures. Et donc... de ce que les autres m'envoyaient, tout ce que les autres m'envoyaient, et qui ouvrait ces blessures encore plus, et qui me faisait être une personne méchante ou une personne jalouse, ou enfin qui avait beaucoup de troubles, et ben tout ça commence à disparaître, et c'est trop bien.
Quel a été ton chemin pour embrasser ces blessures là et justement alors, je le dis avec mes mots, hein, c'est peut-être pas les tiens, mais peut-être laisser respirer ces parts de toi, justement, qui manquaient de confiance, qui pouvaient être jalouses des autres athlètes. Quel a été ton chemin pour peut-être remplir les trous? Par quoi est-ce que tu as remplacé justement ce manque de confiance en soi, cette jalousie? Tu les as remplacés par quoi pour aller vers plus de joie et être plus heureuse, comme tu le disais?
Mais en fait, déjà... j'ai pas eu le choix, parce que...
qu'est-ce qui t'est arrivé?
Il y a un moment où c'était soit je prenais vraiment soin de ma santé et j'arrêtais de rester dans ces schémas répétitifs malsains, en fait, soit je me laissais aller dans ces schémas malsains et je finissais très mal, en fait, parce que...
peut-être que je suis allée un peu trop vite avec ma question, et on pourrait peut-être justement parler de... peut-être des profondeurs dans lesquelles t'ont emmené ces schémas-là.
Je pense que pendant des années, j'ai été dans le déni de toutes ces parts mauvaises de moi, en fait. Pour moi, c'était normal d'être jalouse de toutes ces filles. C'était normal de vouloir être la meilleure et pourtant de faire des crises de panique tous les 5 matins parce que... parce que c'est un milieu de pression dans lequel on n'est pas du tout accompagné. Pour moi, c'était normal. Donc, j'étais vraiment dans le déni des blessures, parce que c'est pas normal, en fait, d'être triste tout le temps et d'être heureuse un jour parce qu'on a une médaille. C'est hyper malsain. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'était. Et donc, j'ai pas eu le choix parce que je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'arrivais plus à respirer sur un entraînement. Donc, vraiment, le souffle corps, coupé, ouais. Et corps qui a répondu à la place de tout ce que je cachais, quoi. Donc, j'ai dû prendre du recul sur tout ça, calmer un petit peu, essayer de voir d'autres personnes, parce que j'étais tout le temps dans le monde de l'athlée, je côtoyais que des personnes autour de ce monde-là. Et cet épisode, qui est arrivé il y a un an, il m'a permis de m'ouvrir à d'autres mondes, de réveiller un peu plus ma fibre artistique dont j'ai parlé au début, mais même de me faire des vrais amis. Donc j'ai pas eu le choix, et j'ai re-eu un épisode très difficile au début de cette année, dans lequel, heureusement, en fait, j'ai commencé un travail psy.
Ouais.
En janvier 2022, j'ai commencé le travail. J'avais déjà vu d'autres psychologues avant, mais ça collait pas du tout. Et là, j'ai vraiment trouvé une psy qui m'a beaucoup aidée à réveiller justement, à conscientiser tous mes troubles. Parce que j'étais en fait un profil type de la fille qui a grandi dans une famille qui est certes très aimante, mais qui met de la pression. Qui a toujours voulu être la meilleure partout. Enfin, c'est un profil type, en fait, de personne anxieuse. Mmh. Donc, ça faisait des années et des années que j'avais développé des troubles anxieux. Et encore une fois, mon corps, il a répondu. Je me suis fait plein de fractures de fatigue sans raison, en fait. Donc, fractures de fatigue, c'est quand même... ton corps, il est à bout de fatigue.
Ouais.
Même si tu dors 10 heures par nuit, il est à bout de fatigue.
Ouais.
Donc, j'arrivais plus à lire, à me concentrer. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, avant même d'ouvrir une nouvelle page, une nouvelle saison athlétique, de repartir à l'entraînement, je vais essayer de régler toutes ces choses-là, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. C'est qu'avant d'être un ou une athlète accomplie, il faut être une personne accomplie. Donc voilà, j'ai pas eu le choix.
Mais j'adore cette anecdote-là, parce que tu vois, typiquement, le nouveau nom du podcast, c'est Ancrage. Mmh. Et ça part justement d'un constat que je fais moi dans ma vie, d'un paradoxe que je trouve fou. C'est faire un sport à haut niveau, avoir comme navire son propre corps, et pourtant en être coupé au point de tomber malade, sans même, tu vois, que ton corps te dise, mais en fait, ça va pas, quoi. Mmh.
Exactement, ton corps, c'est ton outil de travail, et en fait, t'en prends pas soin. Enfin, même t'as beau faire de la récup, faire tout comme il faut pour être en forme.
Ça reste du faire.
Ouais, exactement, c'est pas du ressentir, et c'est surtout pas de l'écoute de ce que ton corps a à te dire. Mais en fait... Et ça, c'est encore quelque chose que le yoga m'a appris. Et puis, il y en a qui le croiront, il y en a qui le croiront pas. Il y a des personnes plus terre à terre et d'autres moins. C'est qu'il y a vraiment un lien hyper fort entre ce que tu vas penser dans ta tête, ou même pas penser, ce que tu vas somatiser, et ce que ton corps va ressentir. Mmh. C'est vraiment... moi, c'est exactement ce qui est arrivé. J'étais dans une période l'année dernière de stress intense, dans lequel tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je me comparais à tout le monde. J'étais pas bien du tout. Sauf que mon corps, il continuait de charbonner à l'entraînement. J'étais super forte à l'entraînement.
Ouais.
Je faisais des chronos incroyables. Par contre, j'arrivais en compète, j'arrivais plus à respirer au bout de 200 mètres. Donc y a un moment où ça bloque. Donc ouais. Ça, c'est ma propre expérience. Mais il y a plein de recherches aussi qui montrent que le lien entre corps et mental, il est fort. Et donc, si tu comprends pas comment tu fonctionnes dans ton aspect psychologique... y a un moment où ton corps, il va arrêter de te suivre. Ou alors, t'as de la chance, t'es super fort, et tant mieux, en fait.
Ouais.
Mais je pense vraiment que, moi, en tout cas, pour ma part, le travail que j'ai fait sur mon aspect psychologique, il m'a permis d'être mieux dans mon corps. Et même si j'ai jamais arrêté une pratique physique,
ouais.
C'est vraiment...
Ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au-delà d'y croire ou de pas y croire, je pense que ce qui fait la différence, c'est de l'expérimenter.
Exactement.
En fait. C'est pas forcément de se dire, bon, oui, alors voilà, il y en a qui disent que le yoga, ça fait tel bienfait sur le corps et tout. En fait, c'est bien de lire plein de bouquins dessus, de se dire que oui, la psychologie, comprendre sa tête. En fait, à partir du moment où tu en fais l'expérience, bah c'est ça que j'adore avec le format podcast, c'est qu'en fait, tu peux rapporter ton expérience. Tu ne me rapportes pas ce que tu as lu dans un livre, en fait. Tu me rapportes ce qui s'est passé dans ton corps et dans ce mariage entre je comprends ce qui se passe dans ma psychologie et donc l'impact que ça a sur mon corps, comment je somatise, comment ça se manifeste après dans mes blessures et même dans mon comportement. Tu disais que tu étais quelqu'un peut-être pas forcément agréable, que forcément, puisque ça allait pas, c'est difficile, si tu fais la guerre à toi-même, c'est difficile d'être en paix avec les autres. Et voilà, donc en fait, tu parles d'une expérience et pas de ce qu'on peut lire dans les bouquins. Et je pense que ça, c'est vachement important de l'avoir en tête, parce que je pense que peu importe les voies qu'on va emprunter, que ce soit ici un ancrage par le corps ou que ce soit par des outils de psychologie, de développement personnel, ce qui compte au final, c'est de faire l'expérience de quelque chose de nouveau et de voir la conséquence que ça a après sur...
Exactement. Et puis justement, cet aspect de l'expérience, je trouve que c'est super intéressant parce que ma psy m'avait rapporté une anecdote aussi. Elle suivait des sportifs, je ne sais pas dans quel sport, mais bref, des sportifs qui s'entraînaient beaucoup. Et beaucoup ont traversé aussi des épisodes dépressifs. Donc c'est vraiment l'épisode dépressif, ça arrive dans tous les milieux d'élite, et même pas que d'élite, ça arrive vraiment partout. C'est encore très tabou, mais ça commence quand même à sortir, donc c'est bien. Et en fait, ces athlètes-là, ils étaient dans l'incapacité de s'entraîner. Parce que quand tu es dans un épisode dépressif sévère, tu peux même plus te lever du lit. Et c'est pas de la flemme, c'est juste que tout ton système neurologique, il est déglingué. Ton système hormonal, enfin, il n'y a plus rien qui va, vraiment. et donc, ces athlètes n'arrivaient pas. Ils allaient voir la psy pour lui dire, on n'arrive plus. Et leur entraîneur, très terre à terre, mais non, mais c'est dans votre tête, vous avez juste la flemme. Allez, sortez-moi de cette déprime. Tout confondre, quoi. Et en fait, donc la psy avait expliqué à l'entraîneur, non mais ils peuvent pas en fait, c'est pas volontaire, ils peuvent juste pas. C'est comme quand tu te coupes le doigt et que tu peux plus couper quelque chose, tu peux juste plus te lever du lit, quoi. Et en fait, 2 ans plus tard ou quelques années plus tard, c'est ce même entraîneur a traversé un épisode dépressif pour plein d'autres raisons. Et il est allé voir la psy et il s'est excusé. Et il est allé voir tous ses athlètes en s'excusant parce qu'il avait traversé son expérience. Et c'est triste et en même temps, c'est bien qu'il ait eu cette expérience parce qu'au moins, il s'est rendu compte, en fait, que ça arrive et que c'est pas... c'est pas du cinéma, quoi. et donc, c'est bien aussi de... C'est pour ça que moi, j'ai pas du tout de problème à en parler parce que déjà, ça arrive à tellement de personnes. À un moment, il faut arrêter d'être dans le tabou. Vraiment, ça arrive à plein de personnes. On s'en sort, plus ou moins. Souvent, si on est bien accompagné. Mais il faut arrêter d'être dans... il faut partager ses expériences. Il faut pas avoir peur de parler de ce qui nous fait du mal. Ça sert à rien de rester sur l'image positive qu'on a de soi-même si au fond, on n'est pas bien. Et ça, c'est un problème aussi avec les réseaux sociaux où on montre une vitrine parfaite de sa vie et en fait, derrière, on voit pas bien. Je trouve ça... j'ai été comme ça, franchement. Mais
j'ai trouvé super intéressant, justement, quand tu parlais du fait d'accepter, quelque part, ce que j'aime appeler la part d'ombre chez toi. D'arrêter de vouloir coller à cette image de fille qui est réussie, chez qui tout va bien, et de se regarder en face. Comment tu l'as vécu, ce moment-là?
Franchement, ça a été un travail que j'ai beaucoup fait avec la psy. Mais même avec les rencontres que j'ai faites via le yoga, parce qu'on était toutes et tous, mais surtout toutes, parce que c'était surtout des filles que j'ai rencontrées, sur des chemins de développement personnel. Donc maintenant, le développement personnel, on peut mettre tout et n'importe quoi dedans, et c'est nouvelle mode et tout, mais c'est quelque chose que je pense qu'on devrait tous faire, parce que c'est juste, dans ce mot-là, dans ce terme-là, moi j'y vois juste se connaître mieux en fait. Et en se connaissant mieux, tu sais comment tu vas fonctionner avec les autres, avec toi-même, ce que tu vas ressentir à ce moment-là, qu'est-ce qui va te faire sentir bien, pas bien. Et en fait, c'est des choses qu'on ne sait pas et on ne nous apprend pas à le faire à l'école. on n'apprend pas que c'est OK de faire du mal aux autres. Enfin, c'est pas que c'est OK, mais c'est qu'on en fait inévitablement. Toute notre vie, on va avoir des épisodes dans lesquels on va être mauvais ou mauvaise envers les autres. Mais le tout, c'est de se dire, OK, pourquoi j'ai été comme ça ? Comment cette personne, ça l'a affecté ? Est-ce que ça l'a affecté ? Parce que des fois, on fait du mal aux autres, mais ça leur fait pas mal, enfin, a priori. Vraiment, c'est d'analyser tout ça. Et c'est comme ça, je trouve, qu'on peut construire de meilleures relations. Et donc moi, en fait, je me suis dit, à un moment de ma vie, j'ai été hypocrite. À un moment de ma vie... j'avais l'impression que tout le monde me détestait et puis que du coup j'étais quelqu'un de détestable et que du coup j'agissais mal et tout. C'est pas grave en fait. Maintenant c'est passé, je vais pas me lamenter toute ma vie parce que j'ai fait du mal à quelqu'un ou parce que quelqu'un m'a fait du mal. Maintenant c'est comprendre pourquoi ça s'est passé et comment je peux être meilleure en fait.
Ouais, comment t'inscrire à nouveau finalement dans l'ici et le maintenant.
Exactement.
Et ne plus te comporter de manière réactionnelle. Je crois à ça, donc je réagis toujours comme ça pour me défendre, mais plutôt, en fait, je peux choisir maintenant de me comporter comme j'en ai envie.
Ouais, je pense que, on progresse tout le temps, en fait, et on peut tout le temps se remettre en question sur chacune de ces tâches qu'on fait toute la journée. Il faut prendre juste un pas de recul et se dire, d'accord, là, j'ai un peu fait n'importe quoi. Ou alors, oh, c'est trop bien, j'ai trop bien agi. Enfin, je pense avoir bien agi sans essayer de flatter mon ego ou quoi que ce soit. C'est trop bien. Maintenant, je passe à la page suivante. Et c'est l'ancrage, c'est hyper important. Et c'est trop bien que ton podcast s'appelle comme ça. Parce que quand t'es ancré, en fait, il y a rien qui vient te déstabiliser. Que ça passe par l'ancrage physique. Donc, dans le yoga, on peut voir ça comme des postures d'ancrage, en fait, parce qu'il y en a plein. Mais ça passe aussi par l'ancrage psychologique. Et ensuite, l'ancrage que tu as avec les gens. Te dire, là, je suis bien et je pense qu'à ça. Je pense à rien d'autre. Il n'y a rien qui vient me bousculer. J'agis bien. Mmh. Et après, tu passes à autre chose. Des fois, tu es un peu bousculé. Tu apprends à revenir et à te dire, on recommence. Et voilà. Et on évolue. Mais franchement, c'est... Je suis heureuse d'avoir vécu des moments difficiles et encore, franchement, je me plains pas. Il y a des personnes qui sont encore dans des situations bien plus critiques. Mais ces épisodes-là, ils m'ont permis de faire tout ce travail-là que j'aurais sûrement pas fait si ma vie était lisse. Et puis, je pense que la vie, elle est lisse pour personne, quoi.
C'est clair. Là, les personnes qui nous écoutent te voient pas, mais t'as fait un mouvement quand tu parlais d'ancrage. Donc il y a un où t'étais très justement droite et ancrée, et puis un autre où comme si t'étais balancée par une vague à gauche ou à droite. Et j'adore en fait moi cette métaphore un peu de la vague comme ça. David Laroche, un coach que j'aime beaucoup, qui dit souvent ça. En fait, un bon marin, c'est pas celui qui garde tout le temps le cap, c'est celui qui perd le cap mais qui sait revenir. T'es pas obligé de toujours être la bonne personne ou de toujours être justement lisse, de pas faire d'erreur, d'être que cette personne-là comme ça qui est un peu parfaite et tout. Non, tu peux par moments être jalouse, être un petit peu de côté, balancée comme ça par les vagues. Et puis parce que t'es ancrée dans « Ok, je comprends pourquoi je fais ça, je m'observe ». Je vois que là, ici et maintenant, je répète un schéma peut-être d'antan et tout. Et parce que je suis dans cette observation-là, dans cet ancrage-là de qui je suis, je peux ensuite reprendre le cap après avoir été balancée comme ça par les vagues de la vie. Et j'aime aussi beaucoup l'idée que tu viens de dire qu'en fait, même si on fait pas l'apologie des moments difficiles, des burn-out, des crises d'anxiété, etc., mais ces choses-là permettent aussi de nouveaux ancrages.
Ouais, ça permet tellement d'évoluer vers une meilleure version de soi-même, en fait. C'est bateau, cette phrase, mais c'est exactement ça. Parce que ça me fait rire parce que hier, j'ai revu une personne que je n'avais pas vue depuis le lycée, qui me connaissait quand j'étais au lycée, du coup, en seconde. Et il m'a dit, mais c'est fou, quoi, t'es plus la même personne. Parce qu'en seconde, c'est vrai que j'étais dans une phase très compliquée, avec tout ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Et il m'a dit, mais là, t'as pris du recul, tu sais comment tu fonctionnais, comment tu veux fonctionner pour être plus alignée avec tes valeurs, avec vraiment ce que tu veux faire. Et ça m'a fait du bien, en fait, je cherche pas à être une meilleure personne pour les autres, en fait. Enfin, ça sert à rien. Chacun a son trajet, chacun va penser les choses que il ou elle veut penser sur toi. Mais c'est par rapport à soi, en fait, tu te dis, ouais, j'évolue, c'est trop bien pour moi, en fait. Et donc, ça m'a fait du bien qu'il me dise ça. Et, Et ouais, c'est... enfin, en fait, c'est jamais trop tard pour être une meilleure personne. Et puis cette idée du bateau, mais c'est exactement ça. Enfin, c'est normal de perdre le cap de temps en temps, voire une fois par jour. Enfin, c'est ok, ouais, c'est... tu vois. C'est pas grave. Et puis...
Tu parlais justement de vivre en étant plus aligné avec tes valeurs. Des fois, bah c'est une question qui est compliquée parce qu'en fait, dans les moments où on s'aperçoit qu'on a pendant longtemps cherché à performer parce qu'on voulait montrer qu'on était meilleur, ou finalement, ce qui comptait, c'était la perf. Un peu comme tu l'as dit, quelque part, tu ne sais pas ce qui compte vraiment pour toi. Et comment, justement, tu en es arrivé à te dire, voilà, c'est ça mes valeurs. Déjà, si tu devais citer peut-être 3, 4 de tes valeurs fondamentales, ce seraient lesquelles ? Et comment t'en es arrivée là ? Comment est-ce que t'as mis le doigt sur « Ok, en fait, ça, c'est vraiment important pour moi. »
Ça, je pense que c'est un travail que j'ai beaucoup fait pendant ma formation de yoga l'année dernière. Justement, on avait fait un atelier sur les valeurs. Et il y avait donc toute une liste de valeurs et celle qui résonnait le plus en nous. Et moi, celle que j'ai dû présenter, celle sur laquelle j'ai vraiment pointé mon doigt, c'était le partage.
Okay.
Donc franchement, au début, j'ai vraiment choisi le partage parce que je ne sais pas, ça me semblait être ce qui résonnait le plus. Et avec encore plus de travail sur cette valeur-là, je me suis rendu compte en fait que le partage dans le sport individuel de haut niveau, ça marche pas en fait. Au pire, tu partages ton image aux autres et tu partages au public ton spectacle entre guillemets. Mais sinon, tu partages pas grand chose en fait. Tu peux partager des souvenirs avec d'autres athlètes et tout, mais moi, dans l'idée de partage, ce que j'aimais vraiment, c'est partager de l'authenticité, des moments sincères. Et c'est aussi pour ça, je pense, que je suis enseignante de yoga. Pour partager en fait quelque chose qui me parle. Et donc ouais, je pense que c'est ma valeur phare, le partage. C'est pour ça aussi que j'aime trop parler de mon expérience, parce que pour moi c'est important en fait de se nourrir des autres. Ouais. Mais quand c'est un partage malsain pour plein de raisons, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus aligné avec ma valeur en fait.
Ok, donc en fait tu t'as mis le doigt dessus. Suite à, par exemple, tu avais une liste donc, de valeurs, tu as mis le doigt dessus parce que c'est ce qui résonnait, et ensuite tu l'as manifesté dans ta vie concrètement en quittant le sport individuel pour aller vers quelque chose de plus collectif et de plus authentique pour toi.
Ouais, exactement. Okay.
Et est-ce que tu penses que finalement, en ayant justement ce cap précis de ce que tu veux pour toi, finalement, est-ce que c'est si incompatible que ça avec le sport de haut niveau ? Ou en fait, par rapport à ce que tu veux, le choix, c'est de ne plus en faire.
Je pense que moi, intrinsèquement, c'est pas gagner une médaille olympique qui me rend heureuse. Et il y en a, ça va l'être, et c'est trop bien pour eux. Et je pense que c'est justement le fait de se connaître, et donc de traverser peut-être des moments très difficiles comme ça, où tu vas te connaître, qui vont te permettre de dire ensuite, ok, je continue parce que c'est vraiment ce que je veux faire, ou j'arrête parce qu'en fait... ça va pas, c'est pas ce que je veux.
Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que le yoga peut apporter comme ancrage justement dans le sport de haut niveau ou à l'athlète qui s'est un peu perdu comme ça, qui est poussé par ses vagues, comment est-ce qu'il peut reprendre son cap ?
Parce que déjà, il y a l'aspect physique que plein de sportifs recherchent, il y a l'aspect souplesse que tu peux devoir rechercher aussi quand tu fais un sport qui va venir te raidir les muscles et tout ça. Je sais que moi, au début, j'ai commencé pour ça, donc voilà. Mmh. Et puis au-delà de la pratique physique, il y a toute la pratique plus méditative qui va venir te poser, te dire, ok, ça fait une semaine que je stresse pour ma compète, je suis assise dans cette salle, j'ai que ça à penser, comment je réagis par rapport à ça ? Parce que quand la vie tourne, qu'on a notre routine quotidienne, toutes les choses qui nous stressent, on pense jamais à rien qu'à les écrire sur un papier ou à les conscientiser. On les laisse juste nous ronger. Et dans le yoga, ce qui est bien, c'est que tu as tout le temps cette partie où tu vas te poser et réfléchir à tout ça. Mmh. Et donc ensuite, tu vas pouvoir mieux le gérer. Puis tu as l'aspect de la respiration aussi dans le yoga.
Ouais.
C'est dans le yoga, la respiration, c'est en fait tout ce qui va... C'est tous les canaux par lesquels ton énergie va circuler. Ouais. Donc c'est tout ce qui va te faire avancer, quoi. Enfin, qui va te faire faire la moindre chose, c'est ton souffle.
Ouais.
Et quand tu n'arrives pas à le contrôler, tu fais des crises de panique, tu es anxieuse. Et dans les sports cardio, bah, c'est hyper important de gérer son souffle, en fait. Et donc franchement, le yoga, pour ça, c'est... Je pense que ça colle avec tous les sports. C'est pas du tout incompatible, voire ce serait trop bien, en fait, que tous les sportifs et sportives y rencontrent cette pratique. Ouais. Après, qu'on aille plus ou moins loin dans les délires spirituels et tout, ça, c'est propre à chacun et chacune. Mais je pense qu'il y a tellement un parcours à explorer pour soi-même dans cette pratique.
Ouais.
Un des principes du yoga qui m'a le plus marqué, c'est le contentement. Parce que dans le yoga, t'apprends très vite, en fonction des profs et tout, mais souvent c'est quand même ça le but, qu'il n'y a pas de posture idéale, que ton corps il va là où il peut aller ce jour-là, et ben contente-toi de ça parce que c'est parfait en fait. C'est exactement où tu dois être. Et ça ne sert à rien de forcer pour aller plus loin, pour faire telle posture, pour être meilleur. Donc c'est vraiment, je pense, le contentement qui m'a aidée. Et ça m'a aidée dans ma vie de tous les jours de me dire... C'est pas grave si t'es la deuxième de la classe. Enfin, contente-toi de ça, parce que c'est trop bien, en fait. Et puis, y a personne qui va venir... Enfin, si, y aura toujours des gens qui vont venir te juger. Mais est-ce que ça va t'apporter quelque chose que quelqu'un vienne te juger? Juste prendre du recul, te dire, c'est parfait. Et de toute façon, je peux rien changer. Donc, contente-toi de ça.
Ouais. C'est pas... Enfin, c'est tout ça pour dire que c'est pas, je pense, en tout cas, antinomique avec le fait de vouloir performer, de progresser dans quelque chose. Bien au contraire, ça permet de t'ancrer dans ce que tu es maintenant pour pouvoir évaluer avec finalement sincérité ce qu'il te faut encore pour aller vers ce que tu souhaites.
Mais c'est exactement ça. Après, la différence, c'est que dans le sport de haut niveau, on va te dire « va à cette vitesse » ou « marque ce nombre de points ». Enfin, on va te dire de faire quelque chose, c'est une injonction, alors que dans le yoga... C'est juste que si tu suis ce cheminement, tu vas y arriver progressivement. Ça peut prendre des années, ça peut prendre 20 ans pour être aligné parfaitement, pour toucher ses pieds et encore plus loin. Enfin, ça peut prendre du temps, mais tu peux y arriver en fait. Parce que ton corps, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Il faut juste que tu l'habitues.
Trop cool. Et pour finir, la dernière question, ce serait, si je te dis ancrage, quoi tu penses? T'as 4 heures.
Non, ouais. Moi, je vais faire le lien avec le yoga, désolée. Mais pour moi, l'ancrage dans le yoga, et après ça va résonner avec la vie entière, c'est la posture de l'arbre. Donc la posture de l'arbre, t'es sur un pied, et t'as l'autre pied, la voûte plantaire de l'autre pied, qui est soit posée sur ta cheville, soit sur ton... sur l'extérieur de... L'intérieur de ton mollet. Soit sur ta cuisse. À l'intérieur de ta cuisse, et tu tiens comme ça, donc tu tiens sur un pied, donc c'est dur, parce que c'est de l'équilibre, et en même temps, ouais, en fait, c'est ça, c'est de l'équilibre, et paradoxalement, c'est de l'ancrage, parce que tu bouges de partout, t'essayes de trouver ton équilibre, et hop, tu l'as trouvé, et t'es ancré. Et pour moi, déjà, quand je fais cette pratique, ça me fait trop du bien de me dire, ok, aujourd'hui, je suis ancré parce que j'ai même pas bougé. Et demain, ah putain, non, aujourd'hui j'ai plein de stress et il y a plein de choses qui vont pas, je bouge de partout et tout. Mais c'est vraiment, ça se ressent. Hein. Donc déjà, je vous propose de faire cette petite expérience. Et en fait, l'ancrage pour moi, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est être là, maintenant, et penser à rien. Parce que, comme j'ai dit, quand tu fais cette posture et que tu bouges de partout, bon après ça peut être juste l'équilibre et tout, bah, ça se travaille, tu vois, c'est ok. Mais moi, vu que je pratique souvent... Quand j'y arrive pas, je sais que c'est pas normal. Enfin, je sais qu'il y a un truc qui cloche, en fait. Et je sais que c'est dû à mon stress, à mon anxiété. Quand je suis ancrée, je suis juste là et je pense pas à ce qui me rend anxieuse. Donc pour moi, c'est l'absence d'anxiété, l'ancrage. Voilà.
Et du coup, c'est quoi la place?
C'est un sentiment de plénitude et puis de... reconnaissance. Et c'est quand même bien d'avoir ce sentiment-là de te dire que la vie, elle est belle et que t'es là parce que tu kiffes, quoi. Alors que quand t'es anxieux, je kiffe pas trop. Hein.
Et bah, du coup, est-ce que tu peux juste... On n'en a pas trop parlé de l'anxiété concrètement. Et je disais qu'on avait fini, mais bon, on n'a jamais fini. Quand il y en a plus, il y en a encore. Mais justement, par rapport à ça, à l'anxiété, alors moi, j'en fais pas particulièrement. Mais je sais que voilà, ça peut arriver à... Enfin, il y a plein de personnes qui sont concernées et que c'est parfois difficile à... Bah, à accueillir et donc peut-être si toi t'avais des tips, des choses que tu voulais partager peut-être sur ce sujet.
L'anxiété ça peut se dévoiler de plein de manières différentes en fonction de chacun et chacune. Moi c'était surtout par des crises de panique en fait, où juste j'arrivais plus à respirer, mon souffle il se bloquait et puis tu agonises vraiment, t'es là, rien, il y a tout qui bloque dans ta cage thoracique. Et ce que j'ai appris pour entre guillemets gérer ça, quand ça arrive sur le moment, c'est juste de la laisser aller. Enfin, vraiment, de ne pas essayer de contrôler. Juste, tu laisses aller ton truc. Tu continues de stresser, tu continues. Puis après, ça va se calmer parce qu'en fait, ton corps, il n'en peut plus. Donc, c'est de laisser passer. Et une fois que c'est passé, de bosser tous les jours sur, comme on a dit tout à l'heure, ton souffle. Quand tu sens que ton cœur, il commence à battre un peu trop vite parce que tu stresses par rapport à quelque chose qui va arriver ou qui est arrivé. Te dire... Ok, je prends une grande inspiration par le nez et j'expire. Et là, ok, ça va, je vais gérer. Et tu le fais plusieurs fois s'il faut.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me le faire savoir en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou l'application de votre choix. N'hésitez pas aussi à me rejoindre et à nous suivre sur Instagram, à l'adresse ancrage.experience ou à m'écrire des mails à ancrage.experience@gmail.com. Ah oui, la musique que vous avez entendue en introduction a été réalisée par Neptune Football Club. Et à la fin, c'est toujours Elia. Je vous souhaite un très beau dimanche, je vous souhaite d'aller bien et de profiter de la vie. À très bientôt pour le prochain épisode.